BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 31 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business pour une heure de débat et de controverse dans les experts. Avec cette question ce matin, la France arrivera-t-elle à éviter une récession technique? On croyait que l'économie française avait stagné au premier trimestre. Eh bien non, le PIB s'est contracté en réalité. Les chiffres viennent de tomber, ils sont tout chauds, hein, publiés par l'INSEE à 8h45. Le PIB a reculé de 0,1 point et les indicateurs pour les mois d'avril et de mai ne sont vraiment pas bons. Quand Bercy et la Banque de France anticipaient une croissance de 0,3 au premier trimestre. Alors trois facteurs l'expliquent, hein. Airbus et ses problèmes de livraison à cause de difficultés ponctuelles d'approvisionnement. Bon, ça c'est pas très grave, ça pourra peut-être rebondir plus tard. Mais vous avez la loi spéciale qui, faute de budget début 2026, a entraîné la suspension de MaPrimeRénov', qui a pesé sur la rénovation, et puis des températures plus élevées qu'anticipées, qui ont fait baisser les dépenses de chauffage. Pour le deuxième trimestre, la prévision de croissance reste positive pour l'instant, mais faible, et pourrait déraper. Alors, récession ou pas, on va voir avec les experts. Et plus globalement, la France est-elle en train de devenir une économie de bas salaire et de pauvreté durable, avec des comptes de la Sécu, on va en parler aussi, qui sont dans le rouge cramoisi. Faudra-t-il réviser la trajectoire budgétaire pour la faire coller davantage au cycle économique? Si oui, par quels voies et moyens? Ce sera le deuxième thème des débats ce matin. Et puis on va revenir sur ce séminaire de la Commission européenne qui doit réfléchir aujourd'hui sur le durcissement de la politique de défense commerciale face aux surcapacités chinoises. Ce sera le troisième débat. Et puis enfin, on viendra sur la keynote d'Arthur Mensch. C'était hier devant le CAC 40. Faut-il imposer Mistral AI aux grands donneurs d'ordre européens pour réussir à faire face aux mastodontes américains? Je rappelle qu'Anthropic, après sa levée de fonds de 65 milliards, cette nuit arrive aux 1000 milliards de valorisation. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 33 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. C'est les experts. Allez, c'est parti. Voilà, et pour parler de ce programme riche, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Antonin Bergeau. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Prix du meilleur jeune économiste 2025 et professeur associé à HEC. Face à vous, Olivier Garnier. Bonjour Olivier.
Bonjour Raphaël.
Qui a quitté récemment la Banque de France comme chef économiste et qui est désormais expert associé à l'Institut Montaigne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Artus.
Bonjour Raphaël.
Patrick, économiste et conseiller économique de la société de gestion Ossiam. Allez, je voulais qu'on parle à chaud là, à vif, des dernières statistiques publiées ce matin par l'INSEE avec ce chiffre. Olivier, je commence avec vous. On pensait que la croissance avait stagné au premier trimestre. Finalement, l'économie française s'est contractée de 0,1 point. Et on voit que les indicateurs, hein, quand on parle de consommation ou d'inflation au deuxième trimestre, peuvent présager à nouveau d'une contraction de l'économie française. Donc la question, elle est simple ce matin. Est-ce qu'on est en train d'entrer en récession?
Alors, je crois que au-delà de la décimale, de savoir si on est à 0, moins 0,1, ce qui est clair, c'est qu'il y a un net changement de vitesse de l'économie française. C'est-à-dire qu'on était plutôt avant sur un rythme proche de 1%, maintenant on est autour de 0.
On est à 0.
Comme vous l'avez dit, le deuxième trimestre s'annonce pas très bon. On a vu dans les enquêtes, même si le mois de mai est difficile à lire en raison des jours fériés, des ponts, mais il a été mauvais, notamment dans les services, parce que c'est une surprise, c'est plutôt les services pour le moment,
oui.
Et non l'industrie manufacturière, qui sont les plus touchés.
Oui. Qui résiste plutôt bien à l'industrie, étonnamment. Hein.
Oui, alors elle est tirée, notamment, il y a des facteurs type la défense qui jouent, mais donc on a clairement un changement de vitesse qui correspond au choc, puisque c'est vrai qu'il y en a eu un choc négatif de termes de l'échange important, donc oui. qui survient après déjà d'autres chocs importants. Donc maintenant, c'est un peu combien de temps va durer ce choc qui va déterminer un peu la suite au deuxième semestre.
Patrick, on rentre en récession, combien de temps ça va durer?
Moi, je crois qu'on a sous-estimé collectivement l'effet de la fermeture des Trois d'Hormuz.
Ouais. Il n'y a pas qu'un effet sur le prix du pétrole et du gaz. Ouais, oui. Il y a un effet d'abord sur le volume disponible, et puis il y a des effets sur des prix de plein d'autres biens.
Et on pensait que cette guerre durait 4 à 6 oui. semaines, terminerait fin avril, et puis on va
Si vous regardez les prix des engrais, ils ont augmenté de 75% depuis février, les prix du plastique de 40%, etc. Donc c'est un choc d'offre négatif, mais pas seulement sur les utilisateurs de d'énergie. C'est un choc d'offre dans plein d'industries, sur l'agroalimentaire, sur... sur l'emballage.
Qui va se diffuser à l'ensemble de l'économie.
Voilà. Et donc on va avoir les effets d'un choc négatif d'offre. Ça veut dire une inflation en hausse. Alors, pour l'instant, l'inflation n'est pas très forte. Hein.
2,4%, nous disons.
L'harmonisé européen, c'est 2,8%. Hein. On voit qu'on est en pente croissante.
Et ça monte.
Et puis, on aura un choc négatif. L'effet mécanique de la hausse des prix du pétrole et du gaz sur l'économie française, c'est à peu près un point de perte de revenus. Et comme on est très prudent pour le déficit public, on n'a pas du tout d'effet amortisseur de la hausse des dépenses publiques comme d'autres pays, par exemple, l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc, ce choc passe complètement à l'économie.
On va
perdre un point de PIB, quoi, en gros. Hein. Donc, si on avait 1% de croissance...
La prévision officielle, je rappelle...
On a quand même des stabilisateurs automatiques importants, même si on n'a pas de mesures plus importantes que dans les autres pays européens.
Oui, mais on va les annuler. Apparemment, si on écoute le Premier ministre, on va annuler les stabilisateurs automatiques, puisqu'on va maintenir la prévision de déficit public malgré le ralentissement de la croissance.
Alors pour l'instant, c'est plutôt les entreprises hein, qui voient, par exemple, les allègements de charges gelés. Donc c'est eux qui prennent la note pour l'instant. Reste à voir ce qui se passera dans le prochain PLF. Je reste sur la conjoncture, Antonin Bergeau. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? C'est-à-dire que là, on entre vraiment en période de turbulence pour l'économie française ?
Oui, effectivement, on a une croissance potentielle qui est faible, donc tout choc nous fait passer rapidement en zone de récession. Et je pense qu'on a sous-estimé la fermeture du détroit d'Hormuz, enfin son effet, mais plus généralement, on a beaucoup sous-estimé l'effet d'un choc énergétique sur l'économie. Il y a eu, en 2022, des économistes qui ont expliqué que ça allait avoir très peu d'impact parce l'Europe allait pouvoir substituer très rapidement du gaz à d'autres sources d'énergie. Oui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été le cas. On a eu une récession en Allemagne et maintenant... Peut-être en France, on est beaucoup plus sensible au choc énergétique que ce qu'on peut prévoir parce qu'en fait, le réseau, la centralité du secteur énergétique est bien plus importante que ce qu'on a pu lire et le coût de la substitution est très élevé. Et aujourd'hui, avec le choc qui arrive et le fait qu'il va y avoir beaucoup moins de politique pour protéger le consommateur d'une hausse des prix, comme on a pu le faire en 2022, effectivement, ça risque de se voir fortement sur la consommation.
Après, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de prix non plus que 2022-2023. On est revenu autour de 90-92 dollars, là, le prix du baril. Est-ce que c'est...
Et le prix du gaz.
Massif, le prix du gaz n'a rien à voir avec ce qu'on a. Et on a des centrales qui fonctionnent.
Mais quand même, quand on regarde le prix des combustibles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, ils sont en hausse, et le prix moyen des combustibles, on dirait, est en hausse de 50%. Et donc...
Sur les trois derniers mois, ouais.
Par rapport à janvier-février. Ouais. Et donc, si ça dure six mois, ça fait 25%. Donc, c'est quand même un gros choc de prix. Quand même,
tout ça nous donne un contexte qui n'est pas très favorable à la prospérité et à la création de valeur. Et je voulais qu'on parle, la grande thématique de cette émission sera sur l'appauvrissement relatif quand même de la France. D'un côté, avec la hausse du SMIC au 1er juin, qui va faire basculer, c'est ce qu'on apprend ce matin dans les échos, 126 branches branches professionnelles sous le salaire minimum, contre une trentaine aujourd'hui. Alors évidemment, les syndicats dénoncent une smicardisation progressive du marché du travail, mais de l'autre côté, il y a eu cette étude de l'INSEE, encore une fois, qui fait un travail formidable et qui révèle que plus de 6 personnes pauvres sur 10 restent pauvres l'année suivante. C'est-à-dire qu'on a allongé en fait la durée de pauvreté. C'est plus simplement un accident de parcours. Ça devient pour une partie de la population une situation durable. En réalité, question simple, réponse simple, est-ce que la France est en train de s'appauvrir, Patrick Artus?
Mais je crois qu'il faut regarder la cause profonde de ça. Moi, je répète dans cette même émission la même chose depuis longtemps, c'est que la cause profonde de ça, c'est la faiblesse du taux d'emploi. La pauvreté, c'est la non-appartenance au marché du travail, essentiellement.
Oui.
Et donc, si on avait un taux d'emploi comparable...
Mais qui est lié un peu avec le contexte macroéconomique,
qui est lié aux déficiences du système éducatif, qui est lié aux problèmes du système de retraite, aux règles du départ à la retraite. Donc, si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 12 ou 13%. D'emplois en plus, hein, c'est monstrueux. Et donc,
avec quand même du temps partiel plus important en Allemagne.
Oui,
on peut
aussi
corriger l'écart. L'écart n'est pas aussi important parce qu'il y a beaucoup plus de temps partiel.
Oui, mais alors regardons les pays du nord de l'Europe. Et donc
Stéphane Carcillo nous disait hier que si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, c'était 140 milliards de recettes supplémentaires.
Oui, et donc on pourrait.
Donc on règle le déficit.
On pourrait faire les investissements nécessaires, on pourrait investir dans l'école. Et il y a un autre chiffre qu'il faut citer, c'est que les dépenses d'éducation de la France, quand vous enlevez les retraites des enseignants, elles sont anormalement faibles. Elles sont inférieures à 3 points de PIB, alors qu'elles sont autour de 5 points de PIB dans les autres pays. Et donc, si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on pourrait mettre l'argent nécessaire dans l'éducation pour augmenter les professeurs, pour réduire la taille des classes, tout ça dont on sait que c'est à la base de la mauvaise qualité du système éducatif.
Est-ce qu'on arrive encore à avoir un ascenseur social qui fonctionne par le travail, Olivier Gagne ? On a l'impression que le travail ne paie plus en France.
Il y a quand même un petit paradoxe dans ce débat, parce qu'on relève le SMIC et après on parle d'appauvrissement. Donc là, on marche un peu sur la tête.
Mais parce qu'on a tout simplement un écrasement des salaires.
Non, mais il faut bien voir qu'on a un SMIC. On est les seuls en Europe où on a un niveau du salaire minimum qui est supérieur à 60% du salaire médian et supérieur à 50% du salaire moyen. Et donc, on l'a déjà vu dans le passé, mécaniquement, quand on augmente le salaire minimum davantage que les autres salaires, là, on parle de smicardisation, mais c'est tout simplement parce que on augmente le SMIC. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet, surtout que, comme l'a dit Patrick, la pauvreté, c'est d'abord... La pauvreté, elle vient du fait des gens qui sont sans emploi, des familles monoparentales. Vous citez l'étude de l'INSEE, elle le met aussi clairement en évidence.
Clairement.
La pauvreté, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on vit bien au SMIC, mais la première cause de pauvreté, c'est pas les gens qui ont un travail payé au salaire minimum. Il faut bien replacer les choses. Et deuxième remarque sur cette idée... Il suffirait, il n'y a qu'à, et on aurait le même taux d'emploi que l'Allemagne. Il faut voir aussi que pour passer à ce taux d'emploi, souvent on est obligé de faire beaucoup de dépenses publiques. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent dans le système français, en tout cas, puisqu'on a plus de 70 milliards d'allègements des charges sur les bas salaires, qui ont une certaine efficacité, qui ont permis d'augmenter le taux d'emploi, mais pour augmenter davantage le taux d'emploi. Si ça passe encore par des allègements de charges ou par d'autres mesures, dans ce cas-là, on n'aura pas les recettes que vous évoquez. Donc, il faut se méfier des recettes miracles.
Il y a un sujet autour de cette indexation automatique. Il y a quand même une réflexion à mener. Là, le patronat, tous les chefs d'entreprise s'auto-plafondent sur le gel des allègements de charges qui sont indexés sur la hausse du SMIC, puisqu'ils doivent à la fois augmenter leurs salariés et en même temps, ils voient leurs charges, leurs allègements ne pas augmenter. Est-ce qu'il faut revoir tout ce système, Antonin Bergeau ? Je vais même vous poser une question provoque. Est-ce qu'il faut arrêter d'indexer le SMIC sur l'inflation ?
Alors, il est indexé automatiquement, mais quand même à une recommandation d'un comité d'experts qui peut aussi décider de ne pas l'indexer ou de recommander de ne pas l'indexer. Donc, ce n'est pas complètement automatique. Je pense que le problème, effectivement, du SMIC, c'est qu'il augmente indépendamment de la productivité des travailleurs à ce niveau de salaire. Donc, il est clairement probablement trop élevé, en tout cas au regard du niveau de productivité. Et donc, forcément.
Je crois qu'il a augmenté de 26%. J'ai vu ce chiffre, 26 ou 28% de plus que l'augmentation de la productivité ces dernières années.
Voilà, donc l'écart
c'est soutenable
entre les deux
économiquement, doit se payer, ça ou pas ?
Ça se paye quelque part, donc soit sur effectivement les autres salaires, les salaires plus élevés, qui eux vont du coup stagner, puisqu'il faut que, il faut que ce soit compensé d'une manière ou d'une autre, ou alors dans les performances de l'entreprise. Et donc ça, c'est un problème d'un point de vue de la logique économique, mais surtout ce que ça a créé pour revenir à la question de la mobilité sociale, des inégalités tout au long de la vie, c'est que ça l'a réduit fortement. Et ce qui était quelque chose sur lequel la France se caractérisait plutôt positivement quand on regardait les inégalités tout au long de la vie, en fait, elles étaient...
La hausse automatique du SMIC sur l'indexation réduit les écarts de niveau de vie.
Ça fait moins progresser les salaires. Et donc, nécessairement, ça vous donne moins de mobilité sociale quand vous êtes en emploi. C'est encore pire quand on n'est pas en emploi, par ailleurs. Je suis d'accord que c'est tout ça le sujet de la pauvreté. Mais même en emploi, on stagne. Cette stagnation, elle se voit en plus sur le salaire net, pas forcément sur les salaires super bruts, donc ça qui continue à augmenter. Donc en plus, le coût du travail, lui, ne stagne pas. Et donc, évidemment, ça pose un tas de problèmes. Et là où la France se caractérisait comme un pays avec peu d'inégalités statiques, c'est-à-dire on photographie à un moment donné, ouais. et aussi dynamique, c'est-à-dire tout au long de la vie, maintenant, on a toujours relativement peu d'inégalités statiques après transfert, mais on a perdu, du fait de tous ces transferts et du fait des politiques qu'on a mis en place, on a perdu cet aspect progression salariale et donc dynamique des inégalités.
Non, mais c'est terrible ce que nous explique Antonin Bergeola, Patrick Artus, c'est grosso modo, on est tous égaux dans la pauvreté. Pardon, je résume de manière un peu brutale, mais c'est quand même un peu ça. Si on avait suivi, on m'a communiqué cette donnée ce matin, mais si on avait connu depuis l'an 2000 les mêmes gains de productivité qu'aux États-Unis, c'est un véritable sujet aussi, le salaire net médian en France serait de 3300 euros par mois. Et oui. pas de 2200. Bah, on a, ça reflète bien ce que dit Antonin, là.
Oui, mais l'absence de gains de productivité en France, il y a plein de causes. Il y a les compétences. On a des compétences faibles de la population. La masse de jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification, on a un taux de NEETS qui est extrêmement élevé.
Oui. Hein. Sans formation, sans emploi.
L'insuffisance des dépenses de recherche-développement des entreprises. Les entreprises françaises dépensent en R&D pratiquement la moitié par rapport à leur valeur ajoutée des entreprises américaines. Donc ça s'explique assez bien, mais alors il y a un cercle vicieux. Donc vous n'avez pas de gain de productivité, donc vous pouvez simplement maintenir le pouvoir d'achat, et donc vous avez après. Mais bon, deux brèves remarques. On a des travaux de l'INSEE extraordinairement intéressants sur la mobilité sociale intergénérationnelle.
Oui. Hein.
Et on voit que à moins de 30% des Français ont une mobilité sociale ascendante par rapport à leur père.
Et donc c'est moins de 30%, donc
les 70% soit régressent, soit sont dans le même niveau de social que leurs parents. Et donc on a vraiment une immobilité sociale. Et alors une cause très importante, c'est le système éducatif, parce que vous avez des données de PISA ou de TIMSS qui montrent que la France est vraiment le record de la reproduction du statut social des parents dans les difficultés scolaires des enfants. Les enfants qui ont des très mauvaises notes TIMSS ou PISA, TIMSS c'est l'enquête sur le niveau en maths,
oui.
Sont très majoritairement des enfants de classes défavorisées. Et donc vous reproduisez le statut social des parents par l'école, et du coup vous n'avez pas de mobilité sociale ascendante.
Olivier, puis Antonin.
Deux remarques sur les gains de productivité. Première remarque, une partie de la faiblesse de nos gains de productivité vient justement de l'augmentation du taux d'emploi qu'on a eu au cours des 10 dernières années. Puisque quand vous mettez au travail
notamment
des
au
gens
des
qui sont peu qualifiés, et donc c'est bien de
c'est
le faire
aussi
ça,
parce que c'est des gens qui avant avaient une production zéro, pour le coup,
maintenant ils produisent, mais ça fait baisser la productivité moyenne. Et deuxième remarque, vous citez les États-Unis. Aux États-Unis, certes, il y a eu des gains de productivité très importants, mais ça ne s'est pas beaucoup répercuté sur le salaire de la grosse partie de la population.
Oui, on avait la fameuse courbe en cas.
La courbe en cas et une augmentation, on voit encore dans les derniers chiffres une augmentation des marges des entreprises très importante. Donc la liaison n'est pas complètement automatique.
Oui, Antonin.
Je voulais juste revenir sur la mobilité sociale intergénérationnelle, parce que je pense que c'est un sujet qui est un peu ressorti du débat, donc qui va peut-être revenir avec ces études, mais qui est quand même très très important. Et on a fait une enquête avec Yann Algan, qui je crois l'a présenté ici il y a quelques semaines.
Oui, absolument.
Et ce qu'on voit, c'est que l'absence de progression salariale, et notamment quand on dit aux gens, on explique aux gens quels étaient le niveau de vie de leurs parents, leurs grands-parents par rapport à ce qu'ils vont connaître comme progression salariale, en fait, a un effet largement supérieur à tout le reste, y compris le niveau de salaire, sur tous les indicateurs négatifs de dépression, de confiance.
Sur l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, mais évidemment.
Et c'est ce qui explique le mieux le vote extrême parmi les... Alors, c'est que des travailleurs, là, mais qui sont très négativement impactés par l'idée que leur salaire va stagner, beaucoup plus que par le niveau, et même le niveau relatif. Donc, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, et c'est dommage que ce soit difficile à mesurer, ce qui fait qu'on en parle peut-être un peu moins. Mais ça devrait rentrer plus dans le débat, je pense.
Absolument. Et merci d'avoir réalisé ces travaux, Patrick.
Il y a un autre point qui est les allègements de charges.
Oui.
Donc il y a un article de Xavier Jaravel, qui est le président du CAE ce matin dans les Échos, qui est très intéressant, qui résume les travaux qui existent et qui montre ce que nous connaissons tous. Le taux marginal massif d'imposition qui correspond à des hausses de salaire au-dessus du SMIC.
Et donc, On dit souvent que pour augmenter de 100 euros, il faut mettre 500 euros
voilà,
super
brut. C'est à peu près 500 euros. Et en plus, Xavier montre que l'efficacité en création d'emplois est faible. Donc on a un système d'allègement de charges qui est
jusqu'à un certain niveau quand même.
Mais même
jusqu'à deux SMIC. On a eu ce débat hier sur le plateau
mais
des experts.
C'est pas évident.
Stéphane Castillo lui dit 2 SMIC. Au-dessus, j'arrête les.
Alors d'abord, il y a des travaux qui disent effectivement 2 SMIC, au-dessus de 2 SMIC. Et puis même en dessous de 2 SMIC, ça a pas l'air massif quoi l'effet de création d'emplois. Et donc il va falloir vraiment réfléchir à un reprofilage plus massif que ce qui a été fait récemment de système d'allègement de charges, parce que c'est vraiment une trappe à bas salaire. Ça génère une trappe à bas salaire.
Ouais. On voit mal les voies et moyens de sortir de cette dynamique infernale qui fait qu'on est quand même englué dans ce système d'une France, de smicardisation de la France, quoi, de l'économie française. Il y a des solutions, on a des exemples d'autres pays autour de nous, en Europe, qui ont mis en place des réformes pour essayer de sortir de cette glue.
Mais je le répète, smicardisation, il ne faut pas le mettre, il faut bien distinguer de smicardisation du débat appauvrissement. C'est deux choses différentes. Dans les autres pays, le niveau du salaire minimum est plus bas, même s'il a été, il y a eu des revalorisations importantes dans certains pays,
oui.
Mais il est plus bas. Donc le SMIC n'a pas le même rôle dans les autres pays. Nous, on a, c'est ça toute la difficulté. Le système idéal, ça serait plus d'avoir un salaire minimum qui soit plus bas, et puis après des minima de branche qui, eux, soient sensiblement au-dessus du salaire minimum.
Oui, là, c'est l'inverse.
Et ce qui jouerait un peu la voiture balai, c'est pas le salaire minimum qui, lui, serait plus une sorte de filet pour empêcher des abus.
Oui.
Et puis, ça serait les minima de branche qui, eux, devraient jouer un peu le rôle de voiture balai. Or là, c'est pas ce que l'on a dans le système actuel. Ce qu'il y a, c'est que maintenant,
126 branches
ça,
professionnelles
ça
vont se retrouver sous le niveau du SMIC.
Oui, mais ça, c'est pas normal que les niveaux des minima de branche soient en dessous du salaire minimum. Et en plus, ça leur donnait un moment un peu, ça leur permettait de bénéficier davantage des allègements de charges.
Bon, je voulais qu'on parle, il ne reste que 5 minutes avant la coupure pub, je voulais qu'on parle des comptes de la Sécu quand même. Tout ça est lié, qui pèse évidemment, cette dette sociale, elle pèse aussi sur le salaire des actifs, puisque c'est le travail qui finance notre sécurité sociale. On va faire plus globalement. On a posé la big picture de l'économie française qui, franchement, ne se porte pas bien. On se dirige tout droit vers une récession technique. Est-ce qu'il va falloir ajuster notre trajectoire budgétaire à ce nouveau cycle économique? Je rappelle qu'on doit passer sous les 5% de déficit, mais la perspective de croissance est de 0,9% officiellement pour l'instant, Patrick. Est-ce que les chiffres qu'on a développés là imposent une révision de notre trajectoire?
Malheureusement, on n'a pas le système suédois. En Suède, on doit avoir un budget équilibré calculé sur un cycle économique. Ce qui permet de faire des déficits publics très importants quand ça va mal, et puis de revenir à l'équilibre quand ça va bien.
On a des lois de programmation
pluriannuelle. Ou même de revenir à un léger excédent quand ça va bien. Oui, mais enfin, c'est jamais appliqué. Et donc, on sait que probablement, que compte tenu de la révision de la croissance et des aides diverses, on va spontanément, on aurait un déficit public de au moins 5,5% du PIB en 2026. Et donc, la trajectoire de retour à 3% en 2029 est monstrueuse, quoi. Ça fait plus d'un point de PIB par an.
Vous nous dites qu'on va pas y arriver.
Ah bon, c'est impossible d'imaginer qu'on améliore le déficit d'un point de PIB. Et en plus, à 3 points de PIB, le taux d'endettement public continue à augmenter parce que malheureusement, le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, quoi.
Ah oui, donc c'est même pas stabilisé. C'est traditionnellement.
Non. Stabiliser, il faut deux.
Stabiliser,
il faut 2% de déficit public.
Ah oui. Donc, Antonin Bergeau, on n'est pas prêt de voir la dette.
Non,
mais c'est reculer, ça c'est une certitude, mais même arrêter d'augmenter.
Alors, c'est la difficulté d'avoir fait une trajectoire ou d'essayer d'anticiper une trajectoire budgétaire sur 5 ans ou 7 ans, indépendamment du cycle, parce que, oui, évidemment, quand vous avez un choc négatif, vous êtes obligé de dévier, mais comme vous avez une trajectoire déjà ambitieuse, vous respectez pas la trajectoire, en plus qui crée un effet de réputation qui rend tout plus difficile.
Je rappelle que Standard & Poor's doit revoir la note française ce soir.
Voilà, et une hausse des taux d'intérêt
sans
hausse du taux de croissance, effectivement, rend la cible de déficit primaire nul, qui était la cible annoncée, encore plus difficile à atteindre. Donc, sans doute qu'on n'y arrivera pas, en tout cas à cette cible de déficit primaire nul. qui est la cible qui, enfin, pour l'instant, stabiliser la dette, en fait. C'est pour ça qu'on visait ce niveau. Si on a une croissance qui n'augmente pas, ce qui est plutôt ce qui a l'air de se passer, puisqu'on a dit tout à l'heure, et un taux d'intérêt qui monte, bah, faut aller au-delà d'un déficit primaire nul. Et donc, faut faire effectivement un effort encore supplémentaire.
Notamment sur la sphère sociale, je reviens sur les comptes de la Sécu.
La priorité, sans être trop technique sur les règles de gouvernance budgétaire européenne, mais on a pris un engagement européen, ça a été fixé par le Conseil. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois la dépense primaire nette.
Oui.
Et en gros, ça revient à dire
qu'on
a été fixé à 1,2%. Pour les années qui viennent. Et c'est une dépense, cette dépense-là, elle inclut, je dirais, que les dépenses sur lesquelles le gouvernement peut agir. C'est-à-dire qu'on exclut, par exemple, la partie indemnisation du chômage qui, elle, dépend de la conjoncture. Et puis, on retranche aussi si, par exemple, il y avait des mesures fiscales, on en tient compte aussi. Donc, la partie, je dirais, qui dépend de la conjoncture, elle n'est pas prise en compte.
Voilà.
Donc concrètement, et là, ça veut
piloter,
dire, en gros, c'est 1,2%, ça veut dire que c'est une augmentation de 20 milliards, et je crois qu'il faut s'y tenir, ce qui veut dire que si, par exemple, on fait des choses sur le chèque énergie ou autre, ça doit être gagé par des économies de dépenses ailleurs. Alors, ça veut dire, là-dedans, on laisse jouer, s'il y a des effets stabilisateurs automatiques, ils jouent, mais en tout cas, ce qui est déjà important, c'est de tenir, quoi qu'il arrive, cet objectif, ne pas dépasser ce 1,2% de dépenses primaires nettes et donc de gager toute dépense nouvelle par des économies ailleurs. Ça, c'est le principe simple.
C'est un peu ce qu'on fait. Bercy a détaillé hier.
C'est ce que fait Bercy.
Et 6 milliards
d'ailleurs, et nous sommes engagés. Nous sommes en procédure de déficit excessif,
oui.
Là encore dans le jargon bruxellois. Donc, la priorité, c'est d'abord de respecter cette trajectoire de dépenses.
Et vu le contexte politique, oui, Antonin, vous pensez que c'est
non, possible? Je ne sais pas, mais en tout cas, le CAE a mis en ligne
Conseil
d'analyse économique, différents postes budgétaires et différentes réformes sur lesquelles on peut
une boîte à outils formidable.
Et vous voyez, si vous essayez d'arriver à 110, 120 milliards sans passer par la caisse sociale, c'est quand même très très compliqué.
Eh oui, et caisse sociale qui, encore une fois, un dernier mot, Patrick, mais on est quasiment à 30 milliards en réalité. Si on enlève les transferts de l'État vers la Sécu, on est quasiment à 30 milliards de déficit de la Sécu. Je ne comprends pas comment, hors période de crise, on arrive à un tel déficit.
Mais d'abord, la sécurité sociale ne devrait pas se financer par la dette. C'est des dépenses courantes, c'est pas des dépenses d'investissement. Alors, il y a peut-être un petit bout qui est d'investissement.
Et là, on parle de dette perpétuelle maintenant. Ouais, la Cour des comptes évoque une dette perpétuelle sur le social.
Et moi, je pense qu'il va falloir, à un certain moment, on aura une réforme de l'État à la suédoise. C'est-à-dire, on supprimera un niveau de collectivité locale, on aura un système d'agence qui fait qu'une instance publique s'occupera d'un problème et pas trois ou quatre instances publiques sur le même problème.
Vaste programme, nettoyer mille feuilles administratives.
Oui, oui.
Salue votre optimisme.
Non, mais ça viendra parce que honnêtement, le déficit public, il va rester à 5,5% du PIB cette année et il sera à 5% du PIB et demi l'année prochaine. Et donc ça finira de mal. Enfin, les autres Européens finiront par pas accepter le caractère de passager clandestin de la France sur sa politique.
Vous pensez que ça finira mal, Olivier Garnier? On n'a jamais eu de sanction des marchés en réalité. Les taux restent quand même.
Non, mais c'est pas la sanction
on
des marchés.
On est protégé par l'euro.
Oui, mais c'est les autres Européens. Les autres Européens vont
donc
commencer à refuser l'anomalie française.
Bon, l'anomalie française, elle est d'abord sur le niveau de la dépense publique, puisque je rappelle qu'on a une dépense publique qui est supérieure à 57% du PIB, alors que la moyenne de la zone euro est à 50, et si on enlève la France, on est à moins de 50. Ce qui veut dire, et ça si on veut être optimiste, c'est de se dire, avec le même modèle social, nos partenaires européens ont 8 à 9 points de moins de dépenses publiques. Donc,
on parle quand même de près de, parce que les points de PIB, ça parle pas forcément à ceux qui nous écoutent, on parle de près de 300 milliards d'euros de dépenses.
Alors, ça doit
en
pas
moins.
Se faire.
Et donc, d'un
c'est
point
pas,
en moins.
C'est pas, bien sûr, c'est pas sur une seule année que ça doit se faire, mais ça peut se faire en gelant, par exemple, les dépenses publiques pendant un certain nombre d'années avec, ça suppose des redéploiements, des priorités. Pour ça que ça doit se faire dans l'année, mais c'est le vrai débat qu'il faudra avoir dans le cadre des élections présidentielles.
Ouais. Mot de la fin, Antonin.
C'est juste pour ces 300 milliards de moins par rapport à la trajectoire. Donc,
oui.
C'est pas des efforts 300 milliards
nominales. Non, c'est pas de réduire. C'est limiter la hausse.
On va arrêter d'augmenter
bien l'expliquer.
En nominal.
Voilà. Arrêtons d'augmenter. Vaste programme, on verra si on y arrive dans le prochain PLF. à mon avis, c'est pas gagné. On se retrouve dans une courte pause publicitaire. On va parler Europe. On va aller à Bruxelles qui tient aujourd'hui un séminaire, le Collège des commissaires, pour trouver les voies et moyens de lutter contre les surcapacités chinoises qui menacent évidemment le marché et l'industrie européenne. On va voir si finalement la solution, ça serait pas de faire venir les Chinois produire sur notre sol à nous. Et puis on parlera IA. Là, c'est plutôt comment lutter contre l'hégémonie américaine. Arthur Mensch, le patron de Mistral, a appelé hier à se mobiliser, que les grands donneurs d'ordre se mobilisent et choisissent des IA et de la tech européenne. On va voir ce qu'en pensent mes experts. On se retrouve dans une minute. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h, passé de 3 minutes, c'est les experts. On a encore une bonne demi-heure de débats et de controverses avec les trois meilleurs économistes de France réunis sur le plateau. Vous avez une chance extraordinaire en ce vendredi. Et je voudrais qu'on parle maintenant, je rappelle, Patrick Artus, Antonin Bergeau et Olivier Garnier. Et je voulais qu'on passe à ce séminaire qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Le Collège des commissaires qui se réunit pour réfléchir aux instruments d'une politique de défense commerciale plus affirmée et plus efficace face à la menace chinoise, face à la menace des surcapacités chinoises qui, évidemment, menacent notre industrie. Il y a un rapport dû au commissariat au plan qui a fait beaucoup de bruit, 55% du tissu industriel européen serait menacé par les produits chinois. Première question très simple, je commence avec vous Patrick Artus, est-ce qu'on doit renforcer notre protection commerciale? Je rappelle que l'Europe, c'est quand même 365 milliards d'euros d'excédents commerciaux l'année dernière, 1 milliard par jour. Donc si on durcit nos conditions d'accès au marché, est-ce qu'on ne risque pas de se tirer une balle dans le pied, tout simplement?
Bon, alors le rapport du Haut-Commissariat à la stratégie montrait clairement qu'il y avait un problème de compétitivité, puisque les produits chinois, à qualité égale ou même supérieure à celle des produits européens, sont en moyenne de 30 à 40% moins chers, avec une grosse dispersion entre les secteurs.
Et donc, et souvent meilleure technologiquement.
La suggestion du Haut-Commissariat, c'est mettre de 30% de droits de douane, quoi, en gros, sur les produits chinois. Alors malheureusement, c'est pas vraiment faisable, parce qu'il y aurait immédiatement des rétorsions chinoises. Donc, on se heurterait au même mur que celui qui a frappé les Américains, c'est-à-dire les Chinois mettraient des droits de douane sur les produits européens.
Et des rétorsions possibles sur les terres rares.
Donc, c'est pas la solution. Donc, la solution, c'est effectivement d'essayer d'attirer des investissements et des transferts de technologies des entreprises chinoises vers l'Europe.
Investissements qui augmentent, hein, oui, 67% oui, d'augmentation des investissements oui, chinois mais faut sur le vieux continent l'année dernière.
C'est pas cohérent avec la stratégie de la Chine. La Chine a une consommation des ménages qui est plate, qui n'a pas du tout augmenté. Ah oui. Hein. Et donc
la son obligation chinoise,
c'est les exportations.
Oui.
Et donc ils vont pas utiliser leur épargne pour investir à l'étranger et se priver d'exporter. Donc je crois que la stratégie c'est sans fin. Donc la stratégie chinoise, c'est pas de délocaliser, c'est d'exporter depuis la Chine pour tenir l'activité. Et la réponse suggérée qui est de mettre des droits de douane ne marchera pas parce qu'il y aura une réponse très agressive des Chinois si on le fait.
Quelles sont les bonnes décisions à prendre au niveau européen, Antonin Bergeau?
Je pense que c'est assez compliqué parce que ça revient un peu à la question qu'on pose souvent de savoir comment on doit protéger le marché européen. Le problème, comme c'est un édit, c'est que on s'est privé d'une capacité de production, en tout cas suffisamment compétitive, par des choix passés, qui fait qu'aujourd'hui, si on ferme le marché, on est très sensible à des représailles sur tout un tas de secteurs, les batteries notamment, les panneaux solaires, des secteurs dont on a besoin en plus pour faire la transition.
Et oui.
Donc on est un peu bloqué.
Et s'ils viennent les produire sur notre sol, c'est plutôt pas mal.
Voilà, donc ce qu'a fait la Chine quand la situation était un peu inversée, c'est qu'elle a ouvert son marché conditionnellement à des transferts technologiques. On pourrait donc faire la même chose.
S'inspirer du modèle chinois.
On voit pas très bien pourquoi la Chine accepterait, par contre, parce qu'on a justement un marché qui est tellement fragmenté qu'elle a pas tellement à gagner à aller négocier avec les Européens collectivement sur un transfert de technologie. Alors que dans l'autre sens.
Le premier marché de consommateurs au monde, 450 millions de consommateurs.
Mais très divisé. Et y compris sur la question de savoir si on doit protéger le marché, par exemple, en mettant une préférence européenne sur certains secteurs. Donc, pour l'instant, la Chine a intérêt à jouer sur la division européenne et à refuser le transfert de technologie et à continuer une stratégie d'exportation. C'est effectivement son modèle. Et donc, probablement à l'Europe d'essayer de trouver ses arguments pour pousser les Chinois à faire du transfert de technologie et à plus investir directement. Ce qui est d'ailleurs les investissements directs à l'étranger vers l'Europe, il y a quelques décennies, les États-Unis l'ont fait, et c'est ce qui a permis en partie à l'Europe de rattraper très rapidement à une époque où l'écart de croissance, l'écart de PIB avec les États-Unis était à peu près ce qu'il est aujourd'hui.
Olivier, moi je me souviens dans les années 90, l'ennemi c'était le Japon. On avait mis des quotas en place contre, à l'encontre des producteurs, des fabricants automobiles japonais. Bon, aujourd'hui, la première usine qui fabrique des automobiles en France, c'est Valenciennes et c'est Toyota. 380 000 véhicules l'année dernière. Premier producteur de véhicules motorisés en France. Est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer le même scénario de la peur avec les Chinois ?
Je crois que le premier sujet, avant de parler un peu des instruments, je crois aujourd'hui, le premier problème, c'est que les Européens sont divisés. Là, comme l'a dit Antonin, il n'y a pas de consensus vis-à-vis de la Chine. Et si ce séminaire peut servir à quelque chose, ça serait d'abord, en vue aussi après
trouver
du Conseil européen,
oui.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne qui ont un peu leur stratégie un peu de passagers clandestins vis-à-vis... Enfin, pas de passagers clandestins, mais en tout cas, leur stratégie individuelle
joue solo.
Vis-à-vis de la Chine. Donc, il faut arriver à un consensus. Après, je pense qu'il pourrait être une bonne stratégie, c'est celle qui avait été dessinée. Il y avait eu un rapport d'un groupe d'experts franco-allemands, là, pour le Conseil franco-allemand, en septembre, en gros, qui disait, voilà ce qu'il faut faire, c'est distinguer un peu selon les types de secteurs.
Oui.
Bon, il y a des secteurs...
On peut faire du sur-mesure.
Maintenant, de type bien de grande consommation, etc. Là, il n'y a pas de raison de se protéger de la Chine, et c'est le consommateur européen qui en bénéficiera. Après, il y a des secteurs où il faut se protéger, qui sont là des secteurs stratégiques pour des raisons de souveraineté, de sécurité, liées à la défense ou autre. Et puis, il y a un troisième type de secteur, c'est de se dire, et c'est ce dont on parle maintenant, où la Chine a pris de l'avance, type les batteries, et c'est là où on peut envisager des mesures en les incitant à produire en France et à faire du transfert de technologie. De la même manière, il suffirait, une chose qu'on peut faire, c'est de répliquer de la même manière que quand une entreprise européenne investit en Chine, il y a un certain nombre de conditions de ce côté-là,
ah oui,
et de dire aux Chinois,
on
met les mêmes conditions côté européen. Alors, à nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Non, mais est-ce que ça paraît dingue de dire aux Chinois, on va pratiquer chez nous ce que vous avez fait avec nous.
Puis le quatrième principe, c'est aussi de se dérisquer de la Chine. C'est-à-dire d'essayer de réduire, puisque effectivement on voit aussi que la Chine a des moyens de rétorsion sur nous, notamment parce que sur un certain nombre de matières critiques, on dépend de la Chine, donc se dérisquer, ouvrir aussi, aller vers d'autres marchés, c'est un peu le sens aussi du Mercosur ou autre,
oui.
C'est d'être moins dépendant du marché chinois, notamment dans le cas de l'Allemagne.
Oui. Je repose cette question, Antonin Bergeau, parce que vous aviez l'air de dire que ça va être compliqué de faire accepter aux Chinois transfert de technologie et joint venture pour faire court. C'est précisément ce qu'ils ont fait il y a un quart de siècle avec nous, non ?
Oui, si on arrive
avec succès.
Pardon, si on arrive à mettre en face le marché européen dans son intégralité, on pourra négocier. Je crois que l'excédent chinois en Europe est quand même 300 milliards ou 360 milliards de
dollars. Oui, ils ont plus de 1000 milliards d'excédents commerciaux.
Mais 360 milliards,
il y en avoir un tiers.
C'est pas rien. Donc le marché européen est quand même important pour eux. Et moi, j'ai un peu de mal à comprendre
la
stratégie allemande parce que l'industrie allemande se fait massacrer par la Chine progressivement. Et certes, il y a des usines allemandes qui produisent en Chine et qui vendent en Chine, mais c'est quand même une stratégie d'assez court terme, il me semble. Donc on a effectivement intérêt, beaucoup, si ce séminaire peut servir à ça, effectivement, tant mieux, de s'unir là-dessus. Mais il faut pas être naïf, les Chinois jouent sur la division européenne, les Américains aussi, et ils essaient de la renforcer en allant justement proposer des choses individuellement.
De manière bilatérale, entre nations, oui. La Hongrie était le premier point d'entrée des Chinois en Europe.
Et je suis tout à fait d'accord avec Olivier Garnier, c'est que on a essayé un moment de faire des batteries en Europe et on a mis beaucoup d'argent pour en faire. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas parce que en fait vous pouvez pas décider de créer un marché et vous pouvez pas décider de forcer les gens à acheter des produits qui sont pas compétitifs. Donc il y a des secteurs, y compris stratégiques sur lesquels en fait il faut abandonner d'une certaine manière et se concentrer sur d'autres secteurs sur lesquels soit il y a un enjeu de souveraineté qui est très net et dans ce cas il faudra bien définir les objectifs en termes de souveraineté, soit des secteurs où il y a encore où l'Europe est encore compétitive. compétitive. Heureusement, il y en a, il en reste beaucoup. Donc
cet agencement, on est en train de le faire, on est capable de le faire au niveau européen, Patrick Artus.
Bon, d'abord, il y a le problème de la segmentation du marché européen dont on a parlé. Vous avez vu l'étude du FMI, mais enfin, qui est discutée, mais qui montre que la segmentation du marché européen entre pays, c'est équivalent à 40% de droits de douane pour les biens.
Exactement.
Et à 110%
bien
de droits de douane pour les services.
De Donald Trump.
Et donc, investir, pour un Chinois, investir en Europe, c'est pas investir en Europe, c'est investir en Allemagne, au Portugal, avec une difficulté à écouler les biens. Enfin, bon. Voilà. Et puis, la seconde question, c'est, c'est légitime de dire ce qu'on dit mes camarades ici, c'est que il faudrait se restreindre à ce qui est vraiment stratégique. Et donc, il faudrait faire développer des industries européennes dans les domaines stratégiques et attirer les Chinois et faire des transferts technologiques pour ce qu'on pourra pas rattraper. Mais alors, la question, c'est les Chinois, maintenant, sont en avance pour l'essentiel des biens technologiques. Il y a une avance sur tous les matériels pour la transition énergétique, hein, sur les batteries, sur les éoliennes, sur le solaire. Il y a une avance sur la voiture. Il y a une avance maintenant sur le médicament, quand vous voyez les budgets de R&D des laboratoires chinois, il y a une avance sur le médicament, sur le vaccin, etc. Et donc, qu'est-ce qui reste que l'Europe peut légitimement développer en se protégeant?
Et le luxe, les infrastructures et le quantique.
Le luxe.
Promesse de demain.
Oui, enfin bon, ça ne va pas vivre l'Europe. Donc, c'est une vraie difficulté. Donc, on sait bien en théorie ce qui est stratégique. On avait dit que c'est les batteries électriques, c'était stratégique. Oui. Mais comme a dit Antonin, c'est un échec parce que la technologie chinoise augmente plus rapidement que la technologie des développeurs européens. Quoi.
Olivier.
Il y a aussi un sujet qui est peu discuté. Alors, qui relève pas seulement de l'Europe, mais de la gouvernance mondiale, et qui a été peu discuté, y compris au niveau G7, c'est le taux de change de la devise chinoise. Parce que normalement, dans la situation chinoise, on devrait plutôt avoir une appréciation du taux de change réel de la Chine, qu'on ne voit pas. En plus, la Chine a une inflation qui est moindre que la nôtre. Donc, il y a quand même un sujet, même si ce n'est peut-être pas le sujet le plus important dans les causes, mais il est un peu passé sous silence, ce qui doit arranger d'ailleurs nos amis chinois. Mais je crois qu'il faut quand même en rediscuter.
C'était l'autre sujet qu'on oublie du rapport de Thomas Grébin au plan. Hein. C'était aussi de jouer sur l'euro.
Oui, mais bon...
Droit de douane ou jouer sur la monnaie.
D'abord, on apprend, en regardant ces données américaines, que les Chinois font des énormes... Alors, c'est des prêts, hein, c'est des énormes prêts au reste du monde. Et donc, effectivement, ils ont un excédent commercial massif, mais s'ils recyclent volontairement par des prêts au reste du monde, ça fait pas apprécier le renminbi, quoi, je veux dire, puisqu'ils ressortent des capitaux automatiquement pour le montant des excédents. La stratégie chinoise, ça a été longtemps d'accumuler des titres du trésor américain. Là, c'est terminé, hein, les détentions par la Chine de titres du trésor américain diminuent. Ça diminue depuis beaucoup d'années, mais simplement, ils ont substitué, alors pas des participations au capital, parce qu'ils sont trop prudents et ils savent que ça sera rejeté par les pays occidentaux, mais des prêts, des loans,
des prêts.
Donc ils
des
prêtent
plutôt que de l'équité.
Et ils prêtent dans l'énergie, dans le transport de l'énergie, dans les ports, dans la tech, etc. Et c'est le premier prêteur étranger aux entreprises américaines, quoi.
La Chine devient alors non seulement l'usine, mais la banque.
Mais le financier du monde.
C'est ça.
Et c'est plus le financier des trésors, c'est le financier des entreprises privées.
Bon. C'était l'usine, ça devient le financier et investisseur quand même, un peu, je rappelle, hein, 17 milliards d'investissements sur le sol européen. Bon.
Oui, et je pense qu'il y a des instruments qu'on n'a pas encore mobilisés, et notamment la préférence européenne.
Oui.
Quelque chose dont on parle beaucoup.
Qui est en débat en ce moment.
Qui est qui est lié à ce sujet, puis au suivant.
On peut rappeler peut-être bien expliquer ce qu'est la préférence européenne à ceux qui nous écoutent.
Ça peut prendre différentes formes, mais c'est l'idée que quand vous avez un appel d'offres pour un marché, vous donnez une aide aux entreprises européennes. Donc, par exemple, si vous essayez de choisir l'entreprise qui est la plus compétitive, vous allez mettre un bonus sur une entreprise européenne. Alors, ça peut être une forme faible comme ça, ou alors carrément...
Et puis, une obligation de choisir. Je crois que un des sujets qui est discuté aujourd'hui à Bruxelles, c'est que vous devez avoir au moins, dans votre assemblage, 40% de fournisseurs européens, voire peut-être...
Mais ça, c'est là où un peu le diable est dans les détails. Parce que quand on fait des objectifs chiffrés comme ça, où on oblige à avoir des composants européens, on se retrouve avec le problème des batteries qu'on a évoqué. C'est-à-dire que parfois, vous n'avez pas d'option européenne de qualité. Donc, il vaut mieux faire, à mon avis...
Et puis, c'est plus cher. aussi, hein, tout simplement. Bah,
c'est plus cher et moins compétitif. Et puis moins bon. Et effectivement, derrière, vous avez des constructeurs automobiles qui ne vont pas acheter les batteries de toute façon parce qu'ils préfèrent prendre des batteries chinoises. Mais vous pouvez, par contre, notamment sur des marchés publics et sur l'IA, je pense que c'est tout à fait quelque chose qui devrait être envisagé.
Oui, oui.
Dire, il faut, on va ouvrir un marché public et là, on va faire une aide ou carrément interdire un acteur non européen ou alors donner un bonus aux acteurs européens pour leur faciliter de remporter cet appel d'offres. C'est ce que font les États-Unis. Et c'est ce qu'a fait la Chine avec une version extrême qui a été carrément d'interdire les acteurs américains dans le numérique à un moment donné. Mais c'est ce qui permet de développer les entreprises de manière endogène, de manière par le marché et pas en disant on va tout de suite dire 40% entreprises européennes. Et oui. Quand on n'a pas ouvert le marché, ça n'arrive pas magiquement.
Vous me faites une transition formidable vers le dernier thème de cette émission qui est-ce qu'il faut contraindre les Européens à acheter Mistral ? Pour faire simple, plutôt qu'Anthropic ou OpenAI. Mistral, qui tenait hier une grande keynote à Paris devant tous les états-majors du CAC 40. Arthur Mensch qui fait un travail, moi je trouve, d'éducation extraordinaire en ce moment. Encore une fois, allez voir l'audition à l'Assemblée nationale il y a une quinzaine de jours. Il a demandé à ce que les donneurs d'ordre le soutiennent, lui. Je rappelle que Mistral, bon, c'est une décacorne formidable, valorisée 12 milliards. Anthropic, après sa levée de fonds cette nuit, c'est 1000 milliards. On a un écart de 100 entre les acteurs américains et les acteurs européens en termes de valo. Est-ce qu'il faut contraindre Patrick Artus, les grands donneurs d'ordre ? Ils le font, il a la moitié du CAC 40, Arthur Mensch, comme client, mais ils le font par patriotisme économique, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont aussi auprès des grands acteurs américains pour le soutenir. Mais est-ce qu'il faut contraindre davantage ? Est-ce que la commande publique ne pourrait pas faire davantage aussi ?
J'ai pas d'expertise. Alors, Mistral est sur un créneau d'IA très particulier, oui. Qui ont les sections, les IA, qu'on dit spécialisées ou professionnelles.
Voilà, il fait du sur-mesure, et notamment il vise beaucoup l'industrie,
des besoins d'entrepreneuriat. C'est pas des IA généralistes, hein, c'est pas de l'IA grand public.
Contrairement à
Et donc ça explique une grande partie de l'écart de valorisation, quoi. Il n'est pas dans le même marché. Je crois que les entreprises sont très contentes de la qualité des produits de Mistral. Quoi. Il n'y a pas de handicap de qualité. Et donc, je vais dire aussi, à qualité égale, on peut préférer...
Mais dans le modèle de développement, voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que l'Europe doit se réveiller sur je soutiens par la commande publique mes acteurs européens pour sortir de la colonie numérique américaine.
Et il y a un autre problème. On a des données qui montrent qu'effectivement, les grands groupes ont adopté l'IA importante. Je crois que le taux d'utilisation de l'IA dans les grands groupes, c'est plus de 30%. Mais les PME sont très absentes, quoi. Et donc il reste un travail pour aligner la taille du marché européen à la taille du marché américain.
Encore une fois, la fragmentation.
C'est les PME ETI qui sont en retard sur l'utilisation de l'IA, quoi.
Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper ce retard en temps de marché? Parce qu'on peut se dire aussi, le marché est le marché, et donc on prend la solution la plus efficace, le meilleur rapport qualité-prix, et puis le plus fort gagne à la fin, voilà.
C'est un très gros marché, donc il y a sans doute la place pour plusieurs acteurs. Et sur Mistral, en fait, a une valorisation qui est plus faible, mais en fait, a une valeur sociale importante pour l'Europe parce que c'est un peu l'assurance de l'Europe contre les Américains. Hein. Si jamais on rentre vraiment dans un monde où on nous coupe l'accès au modèle américain, au moins on part pas à zéro. On a déjà Mistral qui, certes, sur les modèles généralistes, est plutôt inférieur, enfin même qu'à arrêter la course.
Hein, oui, non, mais c'est plus son modèle maintenant.
C'est pas tout le marché. Et donc effectivement, il y a par exemple le marché public qui a été ouvert pour équiper l'administration, et là Mistral a été préféré de manière très très assumée. Alors je sais pas quelle forme ça a pris, mais en tout cas c'est Mistral qui a remporté tout de suite le marché, et c'est quand même un gros marché, donc ça va permettre à Mistral de se développer et d'aller
récupérer. Donc c'est déjà le cas, la commande publique est orientée. Il y a eu une annonce en début d'année du gouvernement qui expliquait qu'il allait mettre orienté 4 milliards et demi dans l'IA numérique.
Enfin, je parlais de ce qui avait été fait avant, mais effectivement, il y aura d'autres appels d'offres, et je sais pas qui les gagnera, mais c'est très quand même vraisemblable que ce soit Mistral. Par contre, le modèle, c'est un tout petit bout de la chaîne de valeur. Et le problème qu'on a, en fait, c'est que certes, il y a Mistral au bout, mais derrière, si vous voulez équiper massivement les entreprises, et encore pire, l'administration et l'armée, etc., d'IA, il faut les data centers souverains. Mmh. Et un data center, c'est du béton et c'est du hardware, mais c'est aussi le logiciel, la couche logicielle qu'on met dessus, le cloud. où là,
il y a des partenariats avec Soprastaria, avec Accenture,
ça date de janvier. Le partenariat Sense avec Google et Thales, et puis il y a d'autres systèmes. C'est très récent et on est sur le cloud. On a vraiment un retard qui est problématique, qui nous ralentit beaucoup plus que la partie modèle. Donc, il faudrait qu'il y ait Mistral qui se développe, mais il faut aussi qu'on continue à développer toute la chaîne derrière.
Ouais.
Et là, à nouveau, peut-être que sur certains maillons de la chaîne, on va devoir renoncer et passer un accord avec des partenaires chinois ou américains, parce qu'on ne pourra pas tout reconstituer.
C'est le cas avec le cloud. Cloud souverain, comme on dit, il est souvent franco-américain.
Sur ce sujet de la souveraineté numérique, là, tout à l'heure, vous avez dit patriotisme économique. Je crois que c'est même pas pour les entreprises. Il n'y a pas tellement besoin de les forcer. Et c'est pas pour faire plaisir à je ne sais qui qu'elles font ça. C'est que aujourd'hui, dans le contexte, géopolitique actuel de fragmentation, aujourd'hui, les entreprises européennes sont complètement conscientes du fait que elles ont besoin de ne pas être à la merci d'une décision qui serait prise à Washington ou autre.
Donc, le problème, c'est
comme l'a dit Antonin, souvent, par exemple, dans le cloud, où elles manquent de fournisseurs. Donc là, c'est plutôt, je dirais, le sujet Mistral, il vient plutôt, il n'y a pas besoin de forcer les entreprises. Là, c'est plutôt, quand il y en a un, elles sont au contraire très contentes quand il y a un fournisseur européen. Donc, il faut aussi donc traiter le sujet là où on a des manques aussi du côté européen sur toute la chaîne.
Oui, puis l'avantage de Mistral, c'est qu'il est frugal aussi, ce système, contrairement aux large modèles qui, eux, consomment en permanence et qui sont de plus en plus onéreux. Ça devient un sujet dans les entreprises. Patrick, je voyais réagir au propos de...
Oui, non, mais je voulais dire, aller dans le sens de ce qui a été dit, que les modèles, les langages, et même les langages spécialisés, c'est qu'un petit bout de la chaîne de l'IA.
Oui.
Et il ne faut pas négliger le hard, donc les microprocesseurs, les mémoires... les disques durs, etc. Et les fournisseurs de hard sont tous américains,
là, oui.
En fait, ils ne produisent pas aux États-Unis.
C'est déjà fini, non?
C'est Micron, c'est Intel, etc. Mais c'est des fournisseurs qui sont délocalisés dans leur production en Asie, hein, dans certains pays, enfin, en Chine, à Singapour, etc. Et donc, de toute façon, on restera dépendant pour le hard, quoi. Je veux dire, pour les matériels. Il y aura pas de constructeur européen significatif de semi-conducteurs ou de disques durs dans les 20 prochaines années, quoi.
Bon, donc pour maximiser nos chances, c'est quoi? C'est diversifier nos fournisseurs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comment on...
Je pense. Après, c'est il y a plusieurs modèles. Donc la couche hardware, au moins l'avantage qu'elle est, elle est coupée. C'est pas, y a pas d'enjeu de souveraineté, c'est plutôt un enjeu économique. C'est-à-dire que, alors sauf si on nous coupe l'accès évidemment aux puces Nvidia ou autre, mais disons qu'il y a pas d'enjeu de vol de données, il y a pas d'enjeu de risque cybersécurité. Quoi. Le problème, c'est plutôt le stockage de données. Donc là, on est en train de le régler avec différentes options qui ont été prises. Et après, pour revenir à la question tout à l'heure, ouvrir le marché à Mistral en poussant très fortement un champion comme on a pu le faire dans le passé, il y a quand même un risque important sur d'absence de concurrence qui fait que Mistral va certes bénéficier d'un grand marché, mais après derrière peut-être être moins incité à aller innover. Or l'outil du marché public est très mobilisé, notamment aux États-Unis puis en Chine.
C'est ce que font les Américains quand même. C'est la question.
Oui, mais
que
avec la mise en concurrence quand même importante et en priori sans avoir un champion national en tête quand ils ouvrent un marché, c'est vraiment basé sur les compétences. Et pendant longtemps d'ailleurs, si c'était un étranger qui remportait le marché, c'était pas tellement vu comme un problème. Donc c'était vraiment la concurrence était mise en avant. Mais dans l'idée d'ouvrir le marché public. Et c'est ça qui permet d'avoir à la fois de l'innovation et puis des capacités d'investissement.
Ouais, on a un peu peur pour la suite quand même, non? Je sais pas, Olivier, on n'a pas la... On se demande comment cette souveraineté qui tarde tant, dont on parle tant, qui est portée depuis Emmanuel Macron notamment, depuis près de 10 ans sur la scène.
Après, il ne faut pas oublier aussi le sujet de l'adoption de l'IA. Là, il y a des économistes de la Banque de France là, qui viennent de publier un billet à partir, il y a une enquête au niveau Eurosystème, ce qu'on appelle l'enquête SAFE, et ils ont fait un travail à partir de ça qui montre qu'il y a plutôt dans les entreprises françaises davantage de réticence, de blocage pour le moment vis-à-vis de l'IA. Et
ah,
ça,
oui.
C'est par rapport à nos partenaires européens. C'est pas par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Donc, je crois, au-delà aussi de la question du fournisseur, je crois qu'il faut aussi
traiter ce problème-là. On est en retard sur l'adoption par rapport à nos voisins.
On est plus réticent à l'adoption. Donc, je vous renvoie à ce billet.
Il y a que 12% des entreprises françaises qui utilisent de façon routinière l'IA.
Bon, Eh bien, on a encore du pain sur la planche. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Patrick Artus, Olivier Garnier et Antonin Bergeau, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est BFM Entreprise, animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 9h30, 10h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.